RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Le meilleur coach de France est là, 20 ans de course à pied à haut niveau. Johan Durand, maître Yonu. Salut Yonu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va impeccable?
Bah ça va, je t'attrape comme ça avant que tu prennes l'Eurostar direction Londres pour le marathon de ce week-end. Tu vas accompagner des coureurs français qu'on salue.
Oui.
Et à qui on pense, parce que c'est l'un des plus beaux marathons du monde. Ils vont se régaler ce week-end dans la capitale
britannique. Ah là, ça s'enchaîne entre Paris, Rotterdam, Boston
ouais.
Londres. Il y a tous les plus beaux marathons d'Europe ou même des États-Unis en ce moment. Ouais. Donc là,
exactement.
C'est la grosse période.
On vous remercie tous pour le nombre de messages, pour le suivi sur les réseaux Instagram et Strava, le club RMC Running. On vous remercie également pour les premières commandes de gamme vestimentaire.
On a dévalisé alors ?
RMC Running, ça cartonne. Merci à tous, vraiment. Notre association avec Foot Dimanche, voilà, si vous voulez être habillé aux couleurs d'RMC Running, n'hésitez pas. Allez jeter un œil, mais en tout cas, ça nous fait plaisir. Et on a hâte de se croiser comme ça avec des vêtements RMC Running.
Ah ouais,
on
ça va
créer
être drôle.
Toute
là.
Une communauté, quoi. On va rigoler.
Ça va ça, quand on croisera un mec Run RMC ou avec des chaussettes Maître Yodu, on saura que c'est un auditeur.
Exactement. Le podcast du jour est consacré à une partie de l'entraînement que vous pratiquez pour la plus grande majorité d'entre vous, c'est le fractionné. On en parle un peu toutes les semaines, on va rappeler les règles de base du fractionné, l'entraînement fractionné. Quels sont les intérêts, comment l'optimiser, quelles sont les allures à respecter sur les séances de fractionné, quels sont les différents fractionnés aussi, les fractionnés courts, les fractionnés longs, les seuils, etc. Et comment apporter de la progressivité dans son fractionné pour progresser à l'entraînement. Le meilleur coach de France est là, donc il va répondre à toutes ces questions. Et puis on aura deux courses qui seront mises en avant dans RMC Running, le 10 km de l'UNICEF, tu es parrain d'ailleurs de cette
magnifique,
course.
Ouais.
Yodu, c'est le 10 mai dans le Bois de Boulogne à Paris, donc on en parlera tout à l'heure. Et puis on mettra également chez moi, tout à fait. On mettra en avant le trail de Haute-Provence. Là aussi, c'est un très beau rendez-vous de la saison de trail avec l'organisateur. Donc restez avec nous, enfilez vos baskets, attachez vos lacets. C'est parti pour RMC Running. Oui, Johan, je voulais parler donc d'aujourd'hui du fractionné, parce que c'est vrai que ça concerne, je le disais, énormément de coureurs qui nous écoutent. Le fractionné, on en parle nous quasiment toutes les semaines, mais de façon naturelle, parce que ça concerne soit les personnes qui viennent dans le cabinet, soit les prépas longs qu'on encadre, et là on vient de sortir du marathon de Paris. Tu dirais que c'est un élément essentiel de l'entraînement, ça s'adresse à tous les coureurs, même quand on ne fait pas de compète, c'est important pour toi le coach de mettre un peu de rythme et de fractionner dans son entraînement ?
Bah ouais, parce que le fractionné, ça va t'amener quand même plusieurs qualités qui vont être très utiles en course à pied et qui vont être ces qualités vont se développer beaucoup plus vite que si tu fais du simple footing. Après, tu as des athlètes qui aiment pas trop sortir de leur zone de confort et qui courent uniquement pour aller courir, avoir un peu l'esprit libéré, tu sais, tous ces coureurs qui courent juste pour un peu se vider l'esprit. Effectivement, dans une séance de fractionné, c'est pas là où tu réfléchis à ton boulot ou tu réfléchis à des trucs. Les séances de fractionné, ouais, c'est pas là où tu vas développer un peu de trucs comme ça. Donc effectivement, ça peut être très utile, mais voilà, je peux aussi entendre des gens qui courent deux fois par semaine et qui ne veulent pas forcément progresser parce que c'est un vrai facteur pour vraiment progresser très vite. Mais voilà, t'as quand même quelques coureurs qui sont un peu récalcitrants et qui aiment bien, eux, faire plutôt leur fractionner pour juste le côté mental de la course à pied et évacuer le stress du quotidien ou autre, quoi.
En revanche, pour tout coureur qui se fixe un objectif, quel que soit le niveau,
complètement.
C'est indispensable, essentiel et indispensable. On est obligé de passer par là pour progresser en course à pied.
Ouais, exactement. Ouais. Alors, pour plusieurs raisons. Le premier, tu vas vite voir que tu vas améliorer ta vitesse en faisant du fractionné. Parce que le fractionné, l'idée, c'est de t'obliger à courir beaucoup plus vite que ton allure habituelle, que ton allure d'endurance fondamentale. Et ça, le résultat, il est simple. C'est que plus tu vas courir vite et plus tu vas devenir beaucoup plus rapide. Et ton corps va commencer à s'habituer à tenir plus ou moins longtemps des rythmes quand même élevés. Après, tu vas augmenter aussi ton cardio, ta capacité, ta VO2 max, ton moteur. Le fractionné, c'est vraiment là où tu vas vraiment stimuler à fond ton système cardio et notamment ce que je te disais, ta VO2 max, ton espèce de moteur. Et tu vas voir que tu vas, au fur et à mesure que tu fais du fractionné, tu vas tenir ces espèces d'efforts intense, beaucoup plus longtemps que ce que tu avais l'habitude de faire, que tu vas respirer beaucoup mieux. Et du coup, le fait d'augmenter comme ça ton moteur et tes allures, ça va aussi te permettre de courir beaucoup plus facilement sur tes allures normales. Tu seras beaucoup plus en confort sur tes allures d'endurance fondamentale parce que tu auras poussé un peu le curseur sur tes séances de fractionné. Et ça, indirectement, grosso modo, le fait de progresser aussi sur ces, d'être beaucoup plus en aisance sur les allures faibles, ça va te permettre de gagner en endurance, d'avoir une meilleure résistance à la fatigue. Tu vas être capable de mieux gérer l'effort aussi. Et donc, pour tout ça, le fractionné, c'est quand même la base dans une construction d'un plan d'entraînement. Pour progresser et pour grosso modo courir plus vite, améliorer ton moteur et progresser plus vite quoi.
La clé, c'est comme dans la musculation ou dans le renforcement musculaire ou tous ces domaines-là, c'est la régularité aussi, Johan. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous intégrez du fractionné dans vos entraînements, si vous vous auto-coachez notamment, s'il n'y a pas de régularité dans le fractionné, s'il n'y a pas aussi de progressivité, l'effet ne se verra pas en fait. C'est vraiment, si vous vous y mettez, il faut se tenir et le faire régulièrement, une à deux fois par semaine, pour sentir vraiment les bénéfices.
Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il ne faut pas négliger, l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire je vais faire du fractionné presque tous les jours, tu vois, parce que tu dis, oui. Ah ouais, le coach m'a dit le fractionné, c'est ce qui va te permettre de développer tes capacités. Et à l'inverse, si tu fais trop de fractionné, même des athlètes de très haut niveau, hein, moi je sais que des séances de fractionné, j'en fais 3 par semaine. Et pourtant, je m'entraîne 12 fois. Ouais. Jimmy Gressier, il s'entraîne 12 fois et il fait 3 séances de fractionné par semaine. Mmh. C'est inutile de vouloir en ajouter plus et d'oublier donc les fondamentaux qui sont essentiels, à savoir l'endurance fondamentale qui va être la clé pour progresser, de la récupération entre ces séances de fractionné, ça doit être justement des footing cool ou des jours de repos pour justement pouvoir assimiler ces entraînements entre ces séances. Sinon, c'est quoi ? C'est de la fatigue chronique et derrière, fatigue, c'est soit stagnation, soit blessure. Mmh. Donc, effectivement, il faut que ça soit fait, que ça soit intégré dans la semaine, mais 2 séances à 3 maximum par semaine pour les athlètes un peu plus, pas de haut niveau, mais ceux qui courent 6 ou 7 fois, effectivement, tu peux monter à 3. Si tu cours 5 fois, tu fais 2 séances de
jamais fractionné. 2 séances enchaînées de fractionné, quoi. Ça, c'est sûr.
Exactement.
En tout cas, pas 2 jours de suite.
Ça, c'est pas 2 jours de suite, effectivement, ouais. ça sert absolument à rien, c'est totalement inutile. Et après, tout à l'heure, tu parlais de progressivité, et je pense que c'est quelque chose qui va être important aussi dans la progressivité des séances de fractionné. Il faut que ça soit bien calibré, il faut que ça soit bien pensé, que ça soit en termes de répétition que tu vas faire sur du volume, tu vois, ça peut être des 1 minute, des 30 secondes, des 45 secondes, X fois, donc ça peut être 8 fois, 10 fois, 12 fois, enfin bref, il faut que ça soit quand même très progressif, que ça soit sur l'intensité que tu vas mettre dedans, la durée des fractions et le nombre de répètes. Et là, par rapport à ces trois trucs, ces 3 piliers là, tu vas pouvoir jouer sur l'intensité, la durée et la répétition, et en fonction de ça tu peux créer des séances totalement différentes et qui vont stimuler différentes
filières.
Ouais, différentes filières, exactement. Ouais. Différentes filières, courtes, moyennes ou longues. Ouais.
Mais c'est important et c'est intéressant ce que tu dis sur la distance parcourue en volume de qualité, parce que ce n'est pas au doigt mouillé. Hein. C'est-à-dire que même toi, quand tu établis des séances d'entraînement, moi, je peux le voir, la distance est toujours calibrée. Il y a toujours une réflexion derrière ça. Tu peux la construire comme tu veux, la séance, mais c'est quand même la donnée principale que tu prends en compte quand tu construis ta séance, Johan. Au-delà de l'intensité visée, c'est le nombre de kilomètres, le nombre de mètres parcourus à haute intensité. C'est ça.
Exactement,
l'idée de la séance de fractionné.
Ouais, c'est ça. La distance est très importante pour établir le plan d'entraînement. Par exemple, une séance de VMA, typiquement, nous, on travaille généralement entre 3,5 km, 4 et 6 km max. C'est là où tu vas établir ta séance. Et donc, tu vas pouvoir jouer sur les séances. Par exemple, si c'est une séance de VMA qui est courue à 100% de ta VMA. Dans ce cas-là, on va t'en donner 10 fois 400 avec des récupérations relativement longues, quasiment du temps de course, tu vois, pour pouvoir récupérer entre les fractionnés. Et à l'inverse, des fois, je peux faire 400 mètres, allure 10 km. Et dans ce cas-là, je vais plutôt en faire 15. Et je vais aller un petit peu moins vite sur les efforts. Il y aura un peu plus de répètes parce qu'il y aura 6 km de fractionnés, donc 15 fois 400. Et les récup seront, vu que l'intensité sera un petit peu moindre, mais les récup, elles aussi, seront raccourcies.
Oui, parce que c'est, comme tu disais, Johan, c'est la distance qui compte, notamment pour la VMA. Et puis aussi, on peut jouer avec les récup, récup lombe ou récup pincée pour travailler différentes filières. Ça, on le détaillera après. Mais l'idée, c'est ça aussi. La récup fait partie de la séance et ça peut avoir une incidence sur les allures pratiquées aussi.
Exactement, ouais. La récup fait partie de la séance. Elle doit être calibrée en fonction de la zone dans laquelle tu veux travailler. Par exemple, admettons, je vais faire des 400, je vais en donner 10 à l'athlète, mais je vais lui donner à 100% de VMA. Ça veut dire il va quand même courir vite et il va être assez essoufflé et ça va être un effort assez intense pour lui. Donc du coup, là, tu augmentes la durée de récupération et là, tu es presque sur des récupérations temps d'effort. Et à l'inverse, dans une prépa 10 km, je vais lui donner 15 fois 400. Donc là, il y en aura 5 de plus. Mais à l'inverse, vu que c'est une prépa 10, je vais pas lui demander de les faire à 100% de VMA, mais plutôt à 90-95% de VMA. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir baisser la récup. Il aura donc plus de fractionner, il ira un petit peu moins vite, mais par contre, il aura un petit peu moins de récup. Ouais. Et donc, tu peux jouer sur tous ces curseurs pour travailler de façon différente. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que voilà, il y a les séances de moins d'une minute. Généralement, si tu veux les travailler à VMA, c'est entre 90 et 100% de VMA. Généralement, c'est aux alentours de 100%. Sur du fractionné moyen de 1 minute à 3 minutes, on est aux alentours de 90-95% de VMA. Et sur du fractionné long, là, on est un peu plus bas. On est entre 80 et 90% de VMA. Fractionné long, c'est à partir de entre 4 et 8, voire 10 minutes, le travail au seuil ou le travail allure semi-marathon, où là, on est beaucoup plus bas. Et là, c'est pareil. On peut varier la distance qu'on va parcourir et la récupération.
Voilà, c'est ça. C'est les trois grands domaines. Le fractionné court, un effort vraiment court, mais très intense. La VMA longue, où là aussi, on est sur des allures très, très rapide, mais ça dépasse pas en général 4 à 6 minutes d'effort. Et puis ensuite, la VMA longue, où vous pouvez avoir des répétitions de 2000, 3000 ou encore 5000 mètres. Mais là, où vous prenez le temps et vous êtes vraiment sur une allure seuil, on le dit souvent, l'allure seuil, on est proche de l'allure semi-marathon à peu près, ou un peu plus rapide,
ça entre semi et 10 km. De ton niveau, mais voilà, c'est des intensités qui sont entre 80, 85 voilà. Et 90 % de ta VMA. Et dans ce cas-là, on ne peut pas. On peut parler par mots, tu vois, c'est le moment où tu peux dire quelques mots, mais tu ne peux pas tenir un vrai discours, une phrase comme tu pourrais le faire en endurance fondamentale. Et tu n'es pas autant essoufflé que sur une séance d'intensité à 100% de VMA où là, tu peux pas parler. Ouais.
Comment on s'échauffe pour être sûr de ne pas se blesser et d'être au top au début d'une séance de fractionnés? Quels sont les échauffements préconisés? Comment on fait monter un peu le cœur pour ne pas partir de zéro au lieu du?
Ça, c'est important parce que effectivement l'échauffement, il est indispensable, mais souvent, il est un peu négligé et un peu bâclé parce qu'on a l'impression que s'échauffer, c'est juste aller courir 4 km et puis ça suffit. Mais moi, personnellement, je m'en suis rendu compte au fil de l'âge, là, que j'ai besoin de mettre beaucoup plus d'intensité dans mes échauffements. Plus je vais faire des séances courtes et intenses, et plus je vais m'échauffer en mettant beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité pour justement faire monter le cardio de façon progressive et les sensations pour vraiment préparer les muscles et les tendons à l'effort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à minima 20 minutes de footing assez progressif. Moi, j'aime bien terminer quand même mes footings, mon dernier kilomètre d'échauffement quand même un petit peu rapide. Ouais. Derrière, ça veut dire faire un peu d'éducatif de qualité, donc des montées de genoux, des talons-fesses, des jambes tendues, du travail de bras, du travail un peu comme ça d'éducatif pour préparer justement les muscles à l'effort. derrière, j'ai toujours 3 ou 4 ou 5 accélérations en ligne droite de 100 mètres. Même des fois, je fais des 200 mètres pour vraiment,
monter le cœur,
pour vraiment terminer l'échauffement. Ouais. Et l'objectif, c'est quand même d'activer le cardio et de ne pas arriver sur le premier effort.
Il
faut pas qu'en fait, après le premier 400, vous soyez pris à la gorge. Quoi.
Voilà. Parce que la clé d'une séance de fractionné réussie, c'est d'essayer de tenir la même allure du début à la fin. Et c'est toujours le piège dans lequel on tombe pour la plupart, c'est de partir très fort, de finir difficilement, ou alors de partir pas assez fort et de finir très fort, mais finalement la séance n'a pas été optimisée. Là aussi, la clé, c'est pour ça que l'allure est importante et il faut connaître à peu près ses cibles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parle là, de VMA, de seuil ou de ce genre de choses, il faut se connaître, parfaitement connaître ses zones. Et si vous ne connaissez pas, faire un test VMA très simple, c'est donc le test de 6 minutes à bloc pour voir quelle allure vous pouvez tenir. Ça vous donnera la carte de densité de
6 ou 12,
tout à fait.
Ouais.
Ah, 12, courage, parce que c'est vrai qu'il faut être... Là, c'est un peu plus long. Ouais. Mais c'est important, Yodu, d'avoir cette régularité dans les fractions. Parce que c'est à ce moment-là qu'on travaille le mieux et qu'on travaille le plus, en fait.
Ouais, exactement. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la VMA, on en parle depuis tout à l'heure, mais effectivement, faire le test et connaître sa VMA le plus précisément possible, c'est votre carte d'identité. C'est-à-dire que c'est elle qui va vous déterminer vos vitesses à laquelle vous devez faire vos fractions. Mmh. Et donc, c'est la base. C'est la base, de la course à pied et la base de tout. Et donc, c'est en fonction de ça que vous allez déterminer votre allure et l'intensité que vous allez mettre. Et donc, la régularité, admettons, on revient tout à l'heure au fameux 10 x 400 courir à 100% de VMA. Mmh. Je vais donner ton exemple. Normalement, toi, tu les cours à quelle vitesse
Les 400 ?
Les 400, ouais.
Bah, ça dépend des prépas, mais entre une 20 et une 13, quoi, à peu près.
Voilà. Entre les deux. Ouais. Bah, dans ces cas-là, si je te donne 10 x 400 en une 18, je vais préférer que tu me fasses tout en les 10 entre une 19 et une 17 que le premier une 24,
et voilà,
le troisième une 21, le quatrième une 18, une 17, et puis le dernier une 12. Et là, la séance,
ça a pas de sens. Ouais.
Ça, elle a moins de sens. Ouais. Elle a moins de sens. Elle va être du coup, tu vas récupérer de façon totalement différente que si tu avais fait tout à la même intensité. Tu n'auras pas travaillé de la même façon. Donc, c'est pour ça que l'échauffement, il doit te permettre de faire ce premier 400 mètres en une 18 sans te prendre à la gorge directement. Et généralement, là où on voit quand l'échauffement n'a pas été bon, c'est pas tant sur le premier que tu n'es pas sur les bonnes allures, c'est sur le deuxième.
Oui.
Quand sur le deuxième, tu as ralenti par rapport au premier,
c'est
qu'en fait, ton échauffement n'était pas bien terminé. Le premier, tu l'as fait et tu l'as maintenu parce que c'était le premier, t'étais chaud. Mais par contre, le deuxième, tu n'es pas capable de le refaire une deuxième fois. Tu es obligé de t'endormir un petit peu et de ralentir les allures.
Exactement.
Et là, ça veut dire que ton échauffement, c'est à toi de te connaître et à peut-être à mettre en montée encore plus en température. Et moi, je vous invite à aller voir mon Strava. Quand je fais des séances de fractionnées courtes ou même des compétitions, maintenant, même dans mes compétitions, avant mes compétitions, il y a presque un kilo et demi qui est couru à presque haute intensité parce que j'ai l'impression que sinon, si je ne fais plus ça aujourd'hui à 41 ans, le premier kill, en fait, il me prend à la gorge derrière, j'ai du mal à m'en remettre, quoi. J'ai du mal à être bien échauffé. Je suis un peu comme un diesel, quoi, qu'il faut bien chauffer. Et ça, c'est d'autant plus vrai l'hiver où l'activation, l'échauffement est d'autant plus importante si vous ne voulez pas vous blesser. Hein.
On parlait de régularité, de progressivité. On va faire en fonction des distances et des objectifs. 10 km, semi ou marathon, Johan.
Ouais.
La période des 10 km va arriver. De nombreux 10 km sont organisés un peu partout en France. Quels sont les fractionnés à privilégier dans cette période et les exemples de séances que tu peux donner comme ça pour ceux qui se lancent dans ces prépas 10K?
Ouais, pour le fractionné 10K, moi, il y en a quelques-uns que j'aime bien. C'est le fractionné un petit peu sur allure moyenne, donc c'est des 1 km et là tu en fais 6 à 7 à ton allure spécifique ou plus rapide de ton 10 km, donc c'est 6 à 7 fois 1 km.
Ouais.
Récupération 1 minute 30 à 2 minutes. Et pour moi, cette séance, elle est hyper clé parce que là, tu vas voir, si tu n'es pas capable d'aller à l'allure de ton 10K, voire un peu plus vite que ton allure 10 km, ça veut dire que ce n'est pas la bonne allure cible. C'est-à-dire que normalement, voilà,
tu te trompes d'objectif. Quoi.
Ouais, tu te trompes d'objectif parce que si tu n'es pas capable de courir 7 km en fractionné à ton allure 10, tu ne peux pas tenir 10 km d'un coup, même si c'est 15 jours avant. Voilà, généralement, cette séance, moi, j'aime bien la placer dans la préparation à quelques semaines, pas dans les derniers jours, mais à quelques semaines de l'objectif. Ça, c'est quand même important. Après, pour le 10K, tu as quand même le développement de la VMA qui va être importante. Et là, on revient à mes fameux 10 à 12 x 400. Ceux-là, ils sont très importants d'être courus à 100% de sa VMA et sur un volume de 4 à 5 km. Donc, c'est pour ça que je dis entre 10 et 12. Ça peut être même, tu peux monter jusqu'à 15 pour les coureurs les plus aguerris, mais déjà 10-12, c'est pas mal. Et là, c'est couru à 100% de la VMA et la récupération, c'est quasiment temps d'effort. Et ça, ça va te permettre d'améliorer ta vitesse, d'améliorer ta foulée aussi à grande vitesse, parce que effectivement, le fait des fois de faire tout en endurance fondamentale ou des seuils, c'est que tu n'as pas non plus l'habitude de courir un peu comme ça en survitesse. La VMA courue à 100%, bah, tu ne peux pas la tenir très longtemps. Donc, tu es un peu, pas en survitesse, mais tu travailles quand même ta foulée, ta capacité comme ça à ton explosivité. Donc ça, c'est quand même à faire assez régulièrement dans ta prépa 10 km. Si jamais tu fais une prépa de 8 semaines, quasiment presque une fois par semaine, il faudrait faire une séance de développement de VMA, surtout si tu es quelqu'un, un coureur qui vient de plus haut, qui vient du marathon ou du semi, pour retrouver justement cette vitesse. Se fractionner court, le travail de vitesse et de relance, il est quand même important. Et après, la dernière séance importante pour le fractionné de 10 km, ça va être ton travail long pour maintenir quand même des bases de seuil. Donc, ça peut être 3 x 2000 ou presque 3 x 3000, pareil pour les coureurs le plus aguerris.
Et là, c'est des allures plus basses.
Beaucoup plus basse, ouais. On est sur des allures entre le 10K et le semi, sur des allures voilà, avec des récupérations un petit peu plus importantes, de 2 à 3 minutes. Mais l'idée, c'est se fractionner long, ce travail presque au seuil va te permettre aussi de faire les fondations. Parce que si tu fais que du travail de fractionner court ou de l'allure SP10, il va peut-être te manquer à un moment donné les bases suffisamment solides, le fait de courir aussi sur des temps d'effort, des temps de soutien assez longs de 6, 7, 8 minutes d'effort pour pouvoir tenir la distance. Quoi.
Pour une prépa semi, c'est plus du seuil que tu vas aller chercher justement, cette allure-là à 80-85% de la VMA, c'est ça?
Ouais, alors là, sur semi, on va un peu changer de rôle parce que le fractionné, effectivement, il va être important, mais il va être moins essentiel parce que là, le travail de vitesse, malgré tout, il est quand même moindre. Donc, le côté, les 10 x 400 à 100% de VMA, en vrai, là, pour le coup, ils ont plus trop de sens. La vraie base, ça va être ton fractionné long, donc effectivement à allure semi. Donc là, c'est des 3 à 4 fois 3000, des choses comme ça, des 2 fois 12, 2 fois 15 minutes de travail au seuil pour apprendre à tenir l'allure cible sans craquer et sur des portions relativement longues de presque plus de 30 minutes d'effort. Là ça va être important. Et après ce qui va être important aussi, on n'en a pas parlé pour le cours et parce que c'est pas du tout du fractionné, mais pour le semi et pour le marathon c'est important, c'est la sortie longue. Là effectivement tu peux pas y échapper quand Bien tu sûr. Prépares un semi-marathon. Et après faire du fractionné court dans une prépa semi, c'est vraiment en complément où là, tu vas pouvoir venir travailler sur de l'intensité pour un peu casser la monotonie de tes prépas semi. Mais autant tout à l'heure, pour une prépa 10K, je disais qu'il fallait une séance de VMA et de fractionner court par semaine, autant là, c'est du complément. Donc là, c'est plutôt une tous les 15 jours pour garder un peu la tonicité, pour redynamiser un peu entre deux prépas. Mais on n'est pas sur surtout, on n'est pas sur des séances qui sont prioritaires, quoi.
J'ai deux questions pour toi quand on est dans des prépas spécifiques comme ça, quand même. L'important, c'est de varier aussi les distances d'entraînement sur les entraînements de VMA. C'est-à-dire, si vous faites que du rébarbatif tout le temps des 400 mètres, à un moment, vous en aurez marre. Donc, peut-être varier, exactement, parfois faire des 500, des 300, plus de séries, oui, genre de choses. On peut s'amuser là-dessus, Odu. Ouais.
Ah ouais, non, bah c'est la base. Là, c'est pareil, l'entraînement, il est tellement varié que tu... Tout à l'heure, je disais qu'on peut jouer sur les trois facteurs que sont la vitesse, enfin, l'intensité, la récupération et la durée d'effort. Mais voilà, c'est effectivement plutôt que quand tu as une séance de couru à VMA à 100%, tu n'es pas obligé de faire tout le temps des 400. Tu peux, exactement, faire des 500, tu peux faire des 300, tu peux faire des 200, tu peux faire 200, 300, 400, 500, 400, 300, 200. Enfin, il y a tout un jeu à faire, des pyramides, des trucs. Et c'est pour ça que l'entraînement doit aussi rester un peu ce côté ludique. Ouais. Voilà, tu vas développer les mêmes capacités, mais plutôt que faire 10 fois 400 toutes les semaines qui vont être usantes mentalement, et au bout d'un moment, bah, ton corps il maîtrise l'effort parce qu'il sait que bah, voilà, 1 minute 15, il va maîtriser parfaitement le truc. Mais par contre, mets-le des fois en difficulté sur des 200 courus en 35-36 avec une récupération courte et où tu dois enchaîner. Il y a plein de choses à faire. Ouais. Il faut s'amuser à essayer de mixer un peu tout ça pour progresser et que mentalement, ce ne soit pas trop long. Ouais.
Dans toutes tes séances, dans tout ton éventail, où est-ce que tu places tes fameuses séances mixtes, Yodu, quand tu mixtes seuil et VMA, justement, quand tu fais des fractions avant des blocs comme ça importants, ça peut être, je ne sais pas, 3 x 400 puis 6 minutes, 3 x 400 puis 8 minutes, 3 x 400 puis 10 minutes. Comment tu l'as construit cette séance et à quoi elle sert concrètement déjà?
Bah, l'avantage, c'est ça, c'est que tu fais un peu du 2 en 1. La séance mixte, effectivement, ça correspond à faire plusieurs intensités dans une même séance. Et ça peut être très efficace, mais il faut que ça soit bien structuré et que, effectivement, tu respectes quand même quelques règles. Ouais, l'idée, c'est ça, c'est de travailler un peu ta vitesse, un peu ta VMA sur du fractionné. Et puis, à côté de ça, aller... travailler aussi ton seuil, développer de l'allure semi ou des choses comme ça, et ce qui te permet un peu de casser un peu justement cette monotonie de l'effort. Alors après, je pense que cette séance-là, la séance mixte, elle est faite aussi pour les coureurs, les bons coureurs d'un niveau intermédiaire. C'est-à-dire que si tu débutes en course à pied et que tu maîtrises pas encore l'effort parfaitement du fractionné, que même des fois aller sur la piste, ça te paraît compliqué ou que tu as du mal à gérer les allures. Ça peut être dangereux de venir sur cette séance mixte. Pour moi, il faut quand même faut avoir un passif en course à pied et maîtriser parfaitement les allures pour pas que ça devienne un peu n'importe quoi, pour courir vraiment aux bonnes allures. Et donc, effectivement, ouais, tu mixes des 400 ou des choses comme ça à VMA. Et derrière, tu peux faire du spé 10, du spé semi. Il faut que il n'y a pas de date à dire en début de prépa, en milieu de prépa, en fin de prépa. Je trouve que dans une semaine, pour un coureur intermédiaire qui a un bon niveau et qui veut de temps en temps remettre de l'intensité, mais tout en se rassurant aussi sur de l'allure semi, parce qu'il a l'impression d'être un peu en retard dans sa prépa ou il ne maîtrise pas forcément les allures, tu vas lui redonner un peu de tonicité en mettant de la VMA et tu vas aussi le faire travailler sur son allure semi. Ça peut être sympa, mais voilà, faut pas que la séance, tu vois, ça se transforme un peu en fourre-tout, non, et que tu respectes pas vraiment les allures et les intensités, surtout sur les parties rapides, parce que ça va être là où tu peux, si tu vas vraiment trop vite, où tu peux un peu te faire exploser la tête. Mais par contre, attention, elle est quand même assez fatigante, assez exigeante. Donc là, il faut quand même bien plus de 48 heures de repos derrière ce genre de séance.
Ouais. Et c'est peut-être le conseil principal qu'on peut donner après toutes tes explications brillantes, c'est que ce qu'il vous faut progresser, ce n'est pas le fait de faire la séance, mais c'est le fait de bien assimiler et bien récupérer après cette séance. C'est l'adaptation, le choc que vous imposez à votre organisme qui va le digérer et qui va l'intégrer. C'est ça l'intérêt du fractionné. C'est pas sur le moment, c'est justement l'après et l'après, digestion, ouais, de tout ça, quoi, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est le risque, c'est de négliger la récupération entre les séances de fractionné, de trop les rapprocher C'est, je vous jure, ça crée vraiment de la grosse fatigue. Hein. Les séances de fractionné, c'est fait pour fatiguer le corps. Et donc, c'est très usant physiologiquement et mentalement. Et derrière, donc, tu peux te blesser ou tu peux stagner. Et l'idée, c'est de vraiment pas oublier l'endurance fondamentale qui est quand même essentielle aussi pour progresser. Donc, il faut aussi quand même qu'il y ait ces fameux footing en EF. Pour progresser. Mais après, attention, hein, le travail de fractionné et d'intensité, c'est quand même un immense levier pour progresser, même s'il y a des contre-exemples. Hein, tu as des gens qui courent tout le temps à la même allure et qui sont très performants, mais c'est quand même pas, c'est quand même beaucoup, c'est quand même très rare. Quoi.
Oui, enfin, l'efficacité est prouvée, en tout cas. Et vous le sentirez vous-même. D'ailleurs des bonnes séances de fractionné qui vous font progresser dans votre pratique sportive.
Comment c'est la jeune marathonienne qui court en 2h35 au marathon et du côté de Rennes là, et qui faisait que ça.
C'est Marjolaine, je crois.
Marjolaine,
oui,
voilà.
Qu'on avait reçu. C'était
exactement,
cet ovni.
Je cherchais son nom. Et elle, elle a progressé. Elle faisait des chronos de dingue, 2h35, je crois, chez les.
Exactement.
Sur Marathon Femme, en faisant que du
Marjolaine Nicolas,
que du footing de 16 km tous les jours.
Eh ouais, exactement.
Sans séance de fractionné.
Eh ben,
mais voilà, est-ce que si on lui avait mis un vrai coach et on lui avait donné des séances de fractionné, est-ce qu'elle aurait fait de 23? C'est la question,
la
question qu'on peut se poser. Hein.
Exactement. On l'embrasse en tout cas si elle nous écoute, Marjolaine Nicolas.
Ouais.
Allez chercher sur Internet, on avait reçu ce profil complètement fou il y a deux
hein.
ou trois ans. Et puis tiens, on passe tout de suite au bon plan d'Ossard.
RMC Running, le bon plan d'Ossard.
Avec un de nos amis, eh oui, on est proche dans la vie, Claude-Henri Durier nous rejoint. Salut Claudio.
Salut les gars.
Salut.
Merci d'être là, Claude-Henri.
Merci à vous.
Très implanté dans le milieu de la course à pied, mais surtout organisateur de ce beau 10 km le 10 mai prochain au plein cœur du Bois de Boulogne. Le 10 km de l'UNICEF, est-ce que tu peux nous le décrire, Claudio, s'il te plaît?
Ouais, déjà, il faudrait remercier Johan et My Running Club d'être partenaires de la course des 10 km de l'UNICEF.
Bien sûr, ouais, ouais.
Ça, on encadre les runs.
Il est là.
Merci à notre maître Yodu.
Et ouais.
Non, et après, c'est 10 km au Bois de Boulogne le 10 mai. Il y a une course enfant, un 3 km et un 1 km sont prévus le samedi. Et pour le coup, la course enfant est gratuite à la différence de certaines courses dont je tairai le nom. mais on a prévu des animations surtout le vendredi après mais le samedi pour les enfants. Il y a trois énormes châteaux gonflables, animations gonflables. Qui sont prévus, il y a des barba papa, des popcorn qui sont là aussi. Et puis après, l'objectif c'est surtout de récolter des fonds pour l'UNICEF, puisque tous les bénéfices vont pour l'UNICEF. Si vous ne faites rien le 10 mai et que vous voulez venir courir avec nous, n'hésitez pas à prendre votre dossard. En allant sur Finishers et en tapant les 10 km de l'UNICEF.
Et c'est pour ça qu'on te met en avant, c'est que c'est une belle initiative, c'est au profit de l'UNICEF, évidemment, qui œuvre justement pour venir en aide à tous les enfants du monde. Donc n'hésitez pas, le parcours est très sympa. Moi, je peux vous le dire, je connais très bien le Bois de Boulogne.
Ah, tu connais l'endroit, toi.
Et franchement, c'est difficile de faire des tracés à perf, mais celui-là est particulièrement adapté. Parce que y a un tout petit peu de difficulté, mais surtout, c'est le deuxième 5 km est plutôt descendant. Donc, si vous voulez aller chercher un chrono, c'est le bon moment. Et pareil, on en parlait avec Johan, mais faire un 10K d'entraînement, si vous êtes en prépa 10K ou semi, ça peut être une bonne idée, Johan, de l'intégrer comme ça à une prépa, tu vois, de tester sa forme sur ce type de course, quoi.
Ah bah complètement, il faut de temps en temps mettre des dossards aussi sur des compétitions sur lesquelles on veut moins se challenger. Et les 10 km de l'UNICEF, pour le coup, correspondent vraiment à cet état d'esprit où c'est plutôt un esprit famille, un esprit sympa et vraiment courir pour la bonne cause, ça change des courses où on a un peu plus de pression parce que soit c'est des gros barnum, des grosses courses, soit on se met l'objectif de vraiment faire un gros chrono dessus. Donc effectivement, venir mettre un dossard un dimanche matin plutôt qu'une sortie longue et le faire pour le plaisir, ça permet un peu d'allier l'utile à l'agréable et quand on sait derrière que c'est aussi pour la bonne cause, ça fait tout en un. Ouais.
Claudio, tu attends combien de participants sur le 10 km?
On espère faire les 7000,
ouais.
Tout compris, parce qu'il y a également un 5 km que j'ai oublié de préciser. Mm-hmm. Donc normalement, j'espère qu'on pourra atteindre les 7000, voire un peu plus. Mais l'objectif, comme vous l'avez dit, c'est de passer un bon moment tous ensemble. L'année dernière, on l'avait mis en mars. Et là, on a voulu le décaler pour avoir le soleil avec nous et la bonne ambiance. qu'on avait déjà, mais pour rajouter le soleil. Donc voilà, l'objectif, c'est surtout de passer un bon moment, de récolter des fonds, de récolter de la visibilité pour l'UNICEF. Et donc, du coup, d'aller vendre du dossard pour atteindre ses objectifs.
Et franchement, là, je suis sur l'affiche du 5 km. C'est départ 11h, ça coûte 15€, donc c'est hyper accessible. Et c'est parcours tout roulant parce que c'est la fin du parcours. Et alors là, vraiment, si vous voulez chercher un chrono sur 5K, c'est une distance qui est rarement parcourue, Johan. Mais là aussi, c'est une bonne alternative. Hein. Là, tu es en prépa, tu te fais un 5K à bloc sur un parcours avec des routes fermées et dans un super cadre. C'est une bonne idée aussi. Hein.
Ah, pour préparer du 10K, ouais, le 5, c'est parfait. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière.
Exactement.
Quand j'étais à Saint-Pierre-la-Mer du côté du marathon Côte Indigo. Et je vais certainement le refaire une semaine avant les France de 10 km pour travailler la vitesse. C'est mieux que faire justement la fameuse séance de 7 fois 1000 tout seul, dont on parlait tout à l'heure sur la séance de fractionné à J-10, tu te fais ton 5 bornes en compétition et ça va te donner un bon temps de passage pour savoir si t'es prêt ou pas et ça peut être toujours sympa. Ouais.
Magnifique, c'est le 10 mai. Allez sur le site de l'UNICEF, sur le site Finisher pour trouver les dossards. Merci beaucoup Claude-Henri Durier qui est venu donc dans
Merci
ce podcast.
À vous deux.
Bon courage pour l'orga, Claudio, et puis on se tient au courant. RMC sera présent à tes côtés pour cette belle initiative en plein cœur du Bois de Boulogne. Merci Claudio, à bientôt.
Je vous remercie, ciao ciao.
Et on a une autre course qu'on voulait mettre en avant. On parle à tous les coureurs dans RMC Running. On parle également aux passionnés de trail avec un super événement qui va arriver. C'est le Trail de Haute-Provence. Et on a la chance, Yodu, d'être avec l'organisateur Vincent Gigliani qui est avec nous. Bonjour Vincent. Oui,
bonjour à vous. Merci.
Bonjour.
Et ben merci à vous. Merci d'être là pour parler de cette belle épreuve qui va se dérouler donc la 11e édition au cœur du mois de mai. Avec un nombre de courses impressionnant. Il y en a pour tous les goûts, hein, Vincent, sur ce week-end qui va arriver vite. Hein.
Oui, c'est l'idée du Trail de Haute-Provence depuis sa création, depuis son origine en 2014. Et ça sera en fait la 12e édition cette année.
Ouais.
Et du coup, oui, il y a des courses pour tout le monde, puisqu'on propose des distances de 10 à 160 km, en passant par le 20, le 30, le 40, le 50, le 65, le 80 en solo ou en relais, et le 120, et pour terminer par la course phare, le 160, qui est donc le 100 miles.
Ah ouais.
Comment ?
Il y en a pour tous les goûts, quoi.
Ah là, ouais.
Exactement.
Goûts, ouais.
Exactement.
Niveaux,
il y a aussi les courses enfants qui ouvrent le bal le jeudi après-midi à partir de 18h.
Bon, on est en plein cœur du Luberon, ça sent le pain, ça sent la lavande. Là, il y a un décor carte postale, Vincent.
Exactement, c'est cette montagne de Lure, enfin ce pays de Forcalquier, montagne de Lure, on est au cœur de la Provence sauvage et c'est vrai que c'est vraiment la carte postale qu'on imagine et qu'on vient chercher puisque le Trail de Haute-Provence, fort de ses 12 années, va rassembler plus de 97 départements cette année avec 37 nationalités qui viennent de 18 pays différents.
Ah oui.
Donc effectivement, c'est un territoire qui plaît, qui donne envie et qui attire. Quoi.
En termes de climat, on n'est jamais déçu à cette période de l'année, a priori.
Il peut faire chaud.
Non, il peut faire chaud.
Ouais. Et c'est vrai que l'an dernier, on était en fait comme on les calait sur le week-end de l'Ascension.
Ouais.
Donc la date change chaque année. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'an dernier, on était en le plus tard possible de la date de l'Ascension, donc fin mai, début juin, on a eu très très chaud. C'était les premières chaleurs.
Alors que là, c'est le week-end du 14, hein, je précise.
Ouais, c'est ça. Là, c'est le week-end du 14 au 17 mai. Donc on devrait avoir moins chaud, mais c'est vrai que les températures commencent quand même à monter et on peut être surpris par une vague de chaleur. Ouais.
Quelle que soit la distance, on est sur du parcours exigeant quand même, Vincent. Il faut avoir un bon niveau de trail pour s'élancer ou non, c'est quand même accessible à tous pour les petites distances, hein, je pense.
Alors, même les grandes distances en fait sont accessibles à tout le monde. C'est juste qu'il faut un peu plus d'entraînement et un peu plus d'expérience. Mais sinon, c'est effectivement des distances et des parcours qui sont accessibles à tout le monde et c'est l'engagement qu'on va y mettre dedans qui vont les rendre plus ou moins difficiles mais c'est vrai qu'on a aussi rajouté des distances notamment un 40 ou un 50 avec des profils moins accentués qui vont pas sur la montagne de Lure et qui permettent une accessibilité plus grande et de rassembler plus de coureurs. C'est vrai qu'à partir du 65 km on est sur la montagne de Lure, on a sur un profil de trail et de parcours plus marqués, plus alpins, qui demandent un peu plus de technicité et qui proposent des ratios distance dénivelé plus importants.
Vous attendez combien de coureurs sur l'ensemble des épreuves ?
On va atteindre le cap des 6000. Donc ouais. on est très 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 content de pouvoir atteindre ce cap-là.
Ouais, c'est beaucoup. Hein.
Oui. Et surtout que le territoire du pays de Forcalquier, sur sa com-com, compte 10 000 habitants au total.
Ah oui. C'est deux fois
donc,
le village.
Quasiment. C'est ça. Donc c'est vrai que quand on compte entre elles, grosso modo, ce qui se dit, c'est que, enfin ce qui se voit plutôt, c'est que un coureur, c'est 2,5 personnes en plus.
Exactement.
Donc c'est vrai qu'on devrait attirer pas mal de monde sur le week-end de l'Ascension.
Comment s'organisent les ravitaillements? Est-ce que tout est hyper carré, quelle que soit la distance là aussi? J'imagine qu'il y a beaucoup de bénévoles qui vous aident à monter ce bel événement.
Oui, c'est aussi une des fiertés que nous avons. Avec cette 12e édition, c'est que non seulement la tribu, on va dire THP coureur, augmente d'année en année, puisqu'on était 4300 l'an dernier.
Ouais.
Mais on a aussi la tribu des ambassadeurs du THP qui augmente. Et on passe de 300 à 400, un peu plus de 400 sur cette 12e édition. Et ces ambassadeurs sont juste formidables par l'énergie qu'ils apportent, le sourire et le soutien à l'organisation qui nous permet de bien accueillir ou d'accueillir du mieux possible, en tous les cas, ses participants de toute la France et de l'étranger. Et ils nous aident sur les ravitaillements qui sont carrés pour toutes les distances, effectivement, comme vous le disiez. On propose au total, on a une vingtaine de ravitaillements à gérer sur l'ensemble des parcours qui vont être partagés par plusieurs courses, en fait. On a des ravitaillements liquides, des ravitaillements solides, des ravitaillements complets. On a trois bases de vie pour les grandes distances, dans lesquels les coureurs peuvent avoir des soins, dormir, manger chaud. Donc effectivement, il y a une logistique derrière qui est assez impressionnante et assez importante.
J'invite les auditrices et les auditeurs à aller voir les images sur YouTube notamment, parce que j'ai le film officiel 2025 sous les yeux. Les paysages sont à couper le souffle, hein, il faut le dire, Vincent. C'est vraiment magnifique. Franchement, ça donne envie d'y aller. Et en plus, on traverse plein de villages du Moyen-Âge. Donc, c'est vraiment...
Non, mais c'est vraiment... on a Internet. Hein. Il ne faut pas croire.
Non,
on a
bien
Internet,
sûr. Il y a Internet. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est... c'est un dépaysement total. Quoi. C'est vrai que c'est souvent, quand on pense au trail, on pense aux Alpes, on pense aux Pyrénées, etc. Mais là, on est sur une région de France qui est magnifique.
Ah, bah
une
oui.
Météo qui devrait être favorable, et avec peut-être même des grosses chaleurs. Mais c'est le trail comme on l'aime, quoi, en tout cas.
C'est ça, et c'est ce qui fait la particularité du Trail de Haute-Provence, c'est qu'on est sur cette montagne de Lure qui était chère à Giono. Et ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle est longue de 63 km. Quand vous êtes sur les crêtes, vous avez l'impression d'être comme un funambule en suspension sur un fil.
C'est exactement ça. Ça se ressent sur les images. Ouais.
Ouais, d'un côté, vous avez la face nord qui est abrupte, vous avez 1000 mètres de gaz. Et puis, sur la face sud, vous avez une pente douce qui part de la montagne de Lure, dont le sommet est à 1826 mètres, donc c'est quand même de la haute montagne. Et ça descend lentement et sûrement jusqu'à la Durance. Et on a une vue, on voit quand la lumière est belle et qu'il y a le soleil, quand la lumière est belle, on arrive à voir la cassure de la Sainte-Victoire. Donc on a vraiment une vue à 360 degrés qui est juste... incroyable. Donc au nord, l'arc alpin, et au sud, la Durance, et puis le plateau de Valensole. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
Puis,
quand on est
en termes de dénivelé, ça reste moins dur que des trails de haute montagne, non?
Alors là, c'est vrai que si vous voulez, les montées et les descentes sont moins importantes qu'en Savoie ou en Haute-Savoie. Mais la difficulté des sentiers du THP, c'est qu'en fait, il faut vraiment être complet pour pouvoir gagner, et ça va vite. Ouais. Ça va vite tout le temps, en fait.
Oui, c'est du trail couru pour la tête de course, bien sûr.
Exactement, et moi j'aime bien rappeler que dans trail running, il y a running.
Bien
et
sûr,
du coup,
bien sûr.
Les profils du THP me correspondent bien parce que je trouve que ça permet de développer la performance de course en montagne de manière assez importante, quoi, parce que ça court tout le temps, en fait.
C'est plus pour les coureurs que pour les randonneurs, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Je le note dans mon calendrier.
Voilà, c'est fait, c'est noté. Et ceux que ça intéresse, c'est le week-end.
Bienvenue, ouais.
C'est gentil, on y pensera pour l'année prochaine. Mais surtout, c'est le week-end du 14 mai. Et grâce à vous, Vincent, on met en avant deux dossards. On ne va peut-être pas envoyer les gens au feu, on les met en avant pour les petites distances, peut-être, hein, pour le 10 km. Le THP 10, ça peut être pas mal. Ou voir le 21, peut-être. Ou le 20, ouais, tout à fait.
Le 20, c'est très bien. Et juste, je rappelle ce qu'on a créé aussi avec mon ami associé Alexandre Piquet, qui est organisateur d'événements dans l'Ain.
Ouais.
On a créé la Ligue Ultra, et dont fait partie le THP 160.
D'accord.
Et tous les participants sur cette distance-là peuvent, s'ils font les 400 miles de la Ligue Ultra en 2 ans, ils peuvent gagner leur billet d'avion et leur dossard pour aller faire la finale à Tahiti.
Oh, donc c'est aussi... ah ouais, quelle carotte, magnifique.
Ah ouais. Bon, donc, allez.
C'est bien, ça vous fait rêver, ça. Vous serez là l'année prochaine.
Ah, on sera là, c'est noté, la date est cochée, c'est bon.
Attends, pour faire 4.
Hein. Ouais, bon, Vincent, ouais, merci beaucoup.
En deux ans.
En 2 ans, c'est accessible. Johan va vite se mettre au trail, donc il pourra postuler pour Tahiti. Vincent, merci beaucoup d'être venu dans RMC Running. Vincent Gigliani, donc organisateur de ce trail de Haute-Provence du 14 au 17 mai.
17,
voilà, 14 au 17 mai. Deux dossards à gagner sur Instagram et sur Strava, les comptes d'RMC Running. Merci beaucoup, Vincent. Merci à bientôt à dans RMC
à
Running.
Bientôt.
Un grand merci au maître Yodu pour cette séance complète sur le fractionné, comment optimiser sa pratique en appliquant le fractionné de manière optimale.
Eh oui, courir vite. Progresser, je sais pas, non, là je suis parti dans un truc, courir plus vite pour progresser plus vite. Allez, voilà.
Non, mais surtout, il faut structurer son entraînement pour progresser.
Ouais, plus que mes phrases.
De manière intelligente. Merci en tout cas, Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.